Ça représente quoi Bron pour vous?
Pour moi, c'est la ville où je suis née. J'aime bien Bron, je suis grandillante. C'est ma ville fétiche, quoi. J'aime trop.
C'est la meilleure ville du monde, on peut faire tout ce qu'on veut.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Il y a Vita Vite, il y a la boulangerie, il y a plein de trucs. En plus, on s'est débrouillé.
C'est débrouillé?
On a trouvé de l'argent par terre.
De l'argent par terre, oui.
Mais on n'a rien volé.
Bien sûr, hein. On n'a rien volé.
Aïe, ah, persil, coriandre, de l'amande, et nous, on de là. Aïe, ah, pas cher. Pas cher, là.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour notre rendez-vous en direct du marché de Bron dans la banlieue de Lyon. Depuis plus d'une semaine, notre tour de France nous a conduits dans des petits villages des Hauts-de-France ou d'Occitanie. Hier, Aurélie Sfez était sur le port de Cancale en Bretagne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire escale à Bron, plus précisément dans le quartier populaire du Terraillon. 9500 personnes vivent ici, car notre ambition, c'est de rencontrer les Français où qu'ils soient, aussi dans les cités où les médias viennent généralement quand ça brûle. Ce matin, pas de voiture calcinée, pas d'émeute, mais il ne s'agit pas pour nous d'avoir une vision angélique de ce quartier. Alors c'est vrai, comme beaucoup de cités, les habitants ont leur lot de problèmes. Le fléau en ce moment, ce sont les rodéos sauvages de moto. On a aussi vu quelques jeunes guetteurs installés sur leurs chaises au pied des immeubles. Mais le quartier du Terraillon est en pleine mutation, à l'image du nouveau parc de 7000 m² où on s'est posé hier quelques instants, un îlot de verdure au milieu du béton. Quel bonheur d'entendre ces enfants rire à gorge déployée quand ils descendent à toute vitesse le toboggan en métal. Beaucoup de logements insalubres ont déjà été détruits pour être remplacés par des immeubles plus petits. Ce qu'on cherche surtout à détruire ici, c'est la mauvaise réputation qui colle à la peau du quartier. À mes côtés, l'une des figures de la ville, Monder Najjar. Vous êtes l'imam de Bron depuis combien de temps?
Bonjour à tous, je suis l'imam de Lyon depuis une année révolue maintenant, mais j'étais l'imam de la grande mosquée de Lyon durant 18 ans.
D'accord, et là maintenant depuis un an à Bron?
Depuis un an à Bron, oui.
Là, nous sommes en direct au milieu du marché Place Jean Moulin, au pied des immeubles. Ça sent bon les épices orientales, on en prend plein les yeux avec les légumes de toutes les couleurs. Monsieur l'imam, vous connaissez pas mal des personnes qui font leurs courses ici. Vous les voyez à la mosquée de Bron, elle est à peu près à 10-15 minutes de là où on est. Elle a été construite en quelle année?
Elle est construite en 2015, ça fait 5 ans maintenant qu'on prie dans cette mosquée. Ouais.
Elle est très très belle, elle a une architecture très moderne.
Tout à fait, oui, tout à fait, très moderne et modeste surtout.
Elle peut accueillir combien de fidèles? Notamment à la prière du vendredi.
La prière du vendredi renferme entre 700 et 1000 fidèles.
Ah oui, c'est beaucoup.
Oui, mais c'est une grande mosquée aussi. Par contre, dans les prières quotidiennes, les prières canoniques par jour, il y a environ 100 à 150 à 200 personnes.
Les prêches, vous les faites dans quelle langue?
Je le fais bilingue, alors en français et en arabe, moitié-moitié.
Monder Najjar, on va rejoindre dans quelques instants Antoine Requin. Il a fait un choix de vie étonnant. Avec sa famille, ils ont quitté leur grand pavillon de la banlieue chic parisienne pour s'installer dans une cité HLM pas loin d'ici. Généralement, c'est l'inverse qui se passe. On parlera aussi de prévention par le rap. Impossible au Terraillon de ne pas parler de foot. C'est là que Karim Benzema a débuté. On s'intéressera au ballon rond, mais au féminin. Et nous rencontrerons le plus ancien commerçant du quartier, le boulanger, 40 ans de carrière dans la cité. Mais avant, on va danser grâce à l'ami Djoubaka qui a choisi pour nous Lee Field avec Thinking About You.
I'm not afraid to
écoutez France Inter, on est en direct du marché de Bron dans la banlieue de Lyon. Je suis avec Monder Najjar, l'imam de la ville. Comment devient imam ?
L'imam, c'est pas un titre, c'est une responsabilité surtout. Mais pour être imam, il faut une connaissance, un minimum de connaissances théologiques qui concernent surtout le droit du musulman, ce qu'on appelle la jurisprudence, aussi les finalités du droit et les fondements du droit, et en même temps une connaissance sur les sciences du Coran, les sciences des hadiths, et comment s'adapter avec hadith, c'est la tradition prophétique, c'est la narration du prophète. Et puis, il faut savoir aussi le contexte actuel de la société en vie ici.
Vous connaissez le Coran par cœur ?
Oui.
C'est un gros livre. Vous avez une bonne mémoire ?
Oui, mais sinon, on n'est pas imam.
Votre rôle en tant qu'imam à Bron, quel est-il ? Qu'est-ce que vous faites concrètement, par exemple ?
À la mosquée de Bron, alors, j'essaie d'animer tout d'abord les prières de vendredi, des conférences, aussi des permanences. Je reçois les communications des gens, les communications de toute la France. Alors, et aussi de répondre aux questions des gens et en même temps aussi de rencontrer les gens par rapport à des problèmes, des problématiques et en même temps des enjeux et des défis qui touchent la société en vie ici.
Vous avez fait l'objet d'un très beau documentaire d'Adrien Rivollier. On vous suit dans votre quotidien et on comprend l'importance de votre rôle. Vous l'avez évoqué, beaucoup d'appels pour avoir des conseils. Par exemple, il y a une femme, moi ça m'a frappé, qui vous appelle pour savoir si elle peut prendre un médicament à base d'éthanol, qui contient donc un peu d'alcool. Elle vous demande si c'est autorisé, c'est-à-dire si c'est halal, ou si c'est interdit, c'est-à-dire haram. Vous vous souvenez de ce que vous lui répondez ?
Je me souviens, oui. Je me souviens, il y a plein de questions par rapport aux enjeux, surtout les enjeux d'un musulman qui réside en Europe ici. Alors, il y a ce qu'on appelle la compréhension du texte. Il ne faut pas comprendre le texte à l'apparence. Il ne faut pas comprendre le texte à la lettre. Il ne faut pas avoir une référence littérale, surtout, une compréhension littérale. Il faut savoir le contexte, il faut savoir le pourquoi et le comment. Si on arrive à savoir le pourquoi et le comment, on arrive à comprendre les choses dans leur contexte actuel et social. Et combien on a besoin d'avoir cette finalité, surtout. De ne pas se borner sur les lettres du texte, mais il faut savoir la finalité, l'objectif.
Alors, par rapport à ça. Il faut l'interpréter, quoi.
Il faut l'interpréter, tout à fait. Mais l'interpréter de façon adéquate et convenable par rapport à la société, par rapport à la réalité, surtout. Alors, on ne peut pas, exporter ou importer une fatwa ou un avis religieux qui vient derrière la mer, qui vient de l'Arabie Saoudite ou qui vient d'un pays autre que la France.
La fatwa, rappelez-nous ?
La fatwa, c'est l'avis religieux. Un avis. Un avis par rapport à un défi, par rapport à un enjeu.
Et par exemple, pour cette femme qui vous appelait pour savoir si elle pouvait prendre ce médicament où il y avait des traces d'alcool ?
Oui, j'ai dit, bon, s'il n'y a pas autre, il n'y a que ça. On est dans la nécessité, dans le besoin, alors il faut le prendre. Mais s'il y a une molécule autre, où il n'y a pas l'alcool, c'est mieux de demander le médecin et demander le pharmacien de citer un autre médicament qui a la même efficacité, mais il n'y a pas d'alcool dedans.
Là, pendant le disque, on a un petit peu marché pour se mettre un peu à l'écart du marché, pour être tranquille. Vous êtes une vraie star ici. Il a fallu qu'on vous tire un peu par la manche parce que tout le monde vous interpellait en vous disant « Monsieur l'imam, bonjour, bonjour ». Vous êtes une vraie star. Comment vous êtes arrivé ici à la mosquée de Bron ? Vous venez de Tunisie au départ.
Moi j'étais un inspecteur régional du gouvernorat au monastère, dans une préfecture. Et en même temps, j'ai fait l'inspection de 200 mosquées et surtout les employeurs dans ces mosquées. Alors, j'ai travaillé durant 12 ans, 13 ans en qualité de prédicateur régional du gouvernorat et inspecteur régional. Alors, dans une gouvernorat, tout d'abord Céliana, et après Monastir, dans deux gouvernorats. Et je suis envoyé après, en 2002, en qualité d'imam à la Grande Mosquée de Lyon, par une convention entre l'État tunisien, entre le ministère des Affaires religieuses, et puis la Grande Mosquée de Lyon. J'ai travaillé dedans 17 ans. Alors, je suis connu par la Grande Mosquée tout d'abord. Dans la ville de Bron aussi, la ville de Bron, parce que je vis ici, à Bron, depuis mon installation ici à Lyon. Et voilà, la connaissance vient de cette de cet amour, cette affection mutuelle entre l'imam et les fidèles surtout.
Justement, là on est au marché de Bron et objectivement, on voit pas beaucoup de blancs. La majorité des personnes sont d'origine maghrébine. Comment ça s'explique ça? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les quartiers.
Bon, c'est un quartier, oui, le quartier majoritaire. La majorité sont des on peut dire blancs, non, mais c'est des gens qui parlent l'arabe, qui sont arabophones, qui viennent des pays musulmans surtout, mais sont résidents ici. Sont résidents depuis leur naissance. Alors, on ne parle pas de première génération, on parle de deuxième, troisième et quatrième génération.
Ils sont français.
Ils sont des Français, oui. Ils sont des Français. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont arabophones ou ils sont des visages blancs, mais ils sont des citoyens français qui résident dans ces pays, la France, dans une localité qu'on appelle Bron, qu'on appelle Terrayon ici à Bron.
C'est parce que peut-être que beaucoup de Français historiques, blancs, sont partis du quartier.
Ils sont partis du quartier, oui. Oui, parce que si on réside dans un quartier, on est des résidents dans des quartiers. On reste les banlieues ou les quartiers restent une résidence qui ne touche pas l'honnêteté et la dignité de la personne du tout. Mais vraiment, c'est des gens qui vivent dans une société, qui s'adaptent avec cette société par des circonstances sociales et actuelles, et en même temps avec une référence, autant qu'on est aussi des musulmans, on s'adapte avec notre islam aussi.
Je vous présente Antoine Requin, qui a fait le choix inverse. Bonjour Antoine.
Bonjour.
D'abord, un grand merci à vous parce que vous avez accepté de faire un aller-retour de 5 heures en voiture pour participer à notre émission. Et vraiment, je suis très heureux de vous accueillir. C'est vraiment gentil à vous. Vous aviez une vie très confortable, une maison avec un jardin dans la banlieue chic de Paris, un bon boulot d'ingénieur dans le BTP. Et c'est là que la prise de conscience chez vous a commencé. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai passé une petite dizaine d'années dans une entreprise de BTP. Et sur des chantiers et du coup avec des ouvriers souvent d'origine enfin venant de banlieue, et j'ai vraiment été frappé dans les discussions que j'avais avec eux quand je déjeunais avec eux de leur environnement et de à quel point je pouvais être étranger au monde des banlieues, quoi.
Et vous avez eu le déclic et vous êtes allé voir une association, Le Rocher.
Ouais, c'est ça. Donc on a entendu parler de l'association Le Rocher. Donc on habitait pas très loin de Desmureaux, qui est une antenne de l'association. Et à l'occasion d'un week-end porte ouverte, avec ma femme, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir.
Et comment ça s'est passé? Alors qu'est-ce que vous avez découvert?
Et ben, alors en arrivant, je dois vous dire qu'on a eu peur.
Pourquoi?
Parce que c'est un environnement qu'on connaissait pas. C'est barres d'immeubles assez imposantes en béton. C'est beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. Et puis des femmes voilées, des hommes en djellaba barbus. Et tout cet univers, moi, je pensais aux images des médias. Enfin, c'était la seule occasion où j'avais ça en tête.
Et
donc
quoi,
les médias, c'est la violence dans les banlieues, c'est la radicalisation. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit, oula, mais c'est une autre France, quoi.
Et là, vous prenez pas vos jambes à votre cou. Qu'est-ce qui se passe?
On aurait pu, mais on avait Le Rocher qui nous accueillait. Et finalement, assez vite, on a été amené à participer aux activités. Alors moi, je crois que c'était un café de rue aux abords du marché et une visite à domicile chez une famille. Et à travers ces activités, on a rencontré les gens. Voilà. Et en fait, en rencontrant les gens, ça change tout. On n'a plus peur de ce qu'on connaît pas, on n'a plus peur du groupe qui n'a pas de visage. Là, maintenant, on est face à des personnes humaines qui, on s'aperçoit qu'on a des points communs, voilà, qu'on veut le meilleur pour nos enfants et les préjugés tombent, quoi.
Monsieur l'imam, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de raconter Antoine Requin?
Oui, c'est la peur de l'inconnaissable, de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais j'ai dit bien que chacun dans l'islam, chacun est libre de croire en ce qu'il veut et de penser à ce qu'il veut. La liberté de conscience, c'est un principe fondamental. Alors, on ne peut pas juger la personne autant qu'on ne connaît pas. Et autant qu'on connaît la personne, autant qu'on simplifie cette crainte, on arrive à s'adapter, on arrive aussi à communiquer avec la personne de façon adéquate et convenable. Alors, j'ai dit, il ne faut pas dire que celui qui porte une djellaba, par exemple, est un extrémiste fantasmé. Non, on dit l'habit ne fait pas le moine, tout d'abord, oui. Mais par contre aussi, c'est quelqu'un qui est libre de croire, libre de penser, et libre d'agir avec espoir et confiance, mais dans la loi de la République, en respectant tout le monde, dans le respect mutuel surtout, dans l'ouverture, la transparence qu'il faut.
Antoine Roquin, fort de cette expérience au Mureau, vous décidez d'aller plus loin. Vous abandonnez votre pavillon, votre grand pavillon et jardin en banlieue à l'ouest de Paris. Vous quittez votre travail, vous prenez une année sabbatique et vous allez à Rieux-la-Pape. Oui. Vous connaissiez cette commune, c'est juste à côté, vous connaissiez ?
Alors non, pas du tout. Donc c'est l'association Le Rocher qui nous a envoyé à Rieux. Et donc, avant d'arriver, on a tapé Rieux-la-Pape dans Google. On était en juin.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors ce qui est sorti, c'est évacuation de la piscine municipale par les CRS, parce qu'il y avait trop de bazar dans la piscine.
D'accord, c'est pas très engageant.
Bon, ça nous a fait sourire, parce que fort de l'expérience qu'on avait faite au Mureau, on s'était dit qu'on allait dépasser cette image des médias, quoi, pour voir le côté positif des banlieues.
Alors vous allez à Rieux-la-Pape, et comment ça se passe ce premier contact ? Qui vous rencontrez ?
Donc ça se passe très bien. Donc on habite dans un appartement HLM dans le quartier, et très vite on rencontre notre gardien. C'est pas vraiment le titre, mais il s'appelle Rachid, qui est d'abord très étonné de nous voir, donc ma famille installée ici, de voir des. Bon, moi je suis blond, grand,
aux yeux bleus,
plutôt blond de peau, et donc très simplement, on discute un peu. Et donc il nous confie qu'au début, quand il nous a observé, il pensait que j'étais un policier ou un addict, il se demandait vraiment qu'est-ce qu'on faisait là. Et très vite, quand on lui explique le projet du Rocher, il trouve ça super, parce que justement lui-même vit dans le quartier, et il dit qu'il souffre de cette absence de mixité, quoi.
Comment réagissent vos amis lorsqu'ils viennent vous voir, lorsque vous les invitez à dîner? Ils vous disent quoi?
Oui, alors ça dépend un peu lesquels, mais globalement, forcément, tant qu'on connaît pas, on garde nos préjugés. Donc ça peut être quelle voiture je prends, est-ce que je peux me garer, est-ce qu'elle va pas brûler, est-ce que voilà, des clichés qu'on a tous, quoi.
Quelle est l'histoire du quartier où vous vivez là actuellement à Rieux-la-Pape?
Alors ce que j'ai compris, c'est que le quartier, donc la ville nouvelle, a été construite dans les années 60. Essentiellement pour les rapatriés d'Algérie. Donc à l'origine, c'était plutôt des fonctionnaires, des militaires, des professions libérales. Et puis ces premiers habitants se sont dit que c'était quand même peut-être mieux de s'installer dans des pavillons dans la Dombe, donc à la limite de Rieux. Et donc après, il y a eu d'autres arrivées, plusieurs vagues d'immigration, donc essentiellement maghrébines. Et du coup, d'un niveau social un peu plus faible, c'est-à-dire de personnes qui pouvaient pas se permettre d'habiter dans des pavillons.
Avec l'association du Rocher, qu'est-ce que vous faites pour les habitants ? Le but, c'est d'aider les habitants du quartier, mais concrètement, ça passe par quoi ?
On fait pas grand-chose pour eux, mais on fait des choses avec eux. C'est-à-dire que...
La nuance est importante.
Ouais, l'idée, c'est de... Donc on a une petite devise, là. Oser la rencontre, choisir l'espérance. Et donc, oser la rencontre, l'idée, c'est d'aller les voir, quoi, de les rencontrer, et de permettre cette rencontre aussi avec des personnes qui n'habitent pas le quartier, pour qu'il y ait cette mixité, un peu plus. Et puis choisir l'espérance, c'est croire en l'homme, croire aux habitants, passer par-dessus tous ces préjugés, et puis voir, parce que c'est visible, hein, toutes les choses, les belles choses qui se passent dans le quartier, qui s'y vivent, beaucoup de solidarité, beaucoup de courage.
Et là, vous aidez un jeune là du quartier.
Oui, alors on a fait la connaissance avec Samy, donc c'est on appelle un grand jeune, donc c'est quelqu'un là aussi premier abord qui me faisait plutôt peur, un grand costaud en jogging, et finalement donc en prenant le temps de se connaître, s'aperçoit qu'il a un projet de devenir pompier. Il a un petit examen là fin juillet. Alors c'est essentiellement du sport, mais il y a une petite épreuve de de maths et de français. Et du coup, on s'est dit qu'on allait le tester pour qu'il soit prêt pour l'examen.
Mondher Najjar, vous êtes l'imam de Bron. On pointe souvent la communauté musulmane quand on parle de communautarisme, de séparatisme. Là, Antoine nous expliquait que l'histoire de son quartier, en fait, c'est l'histoire de blancs qui sont partis, qui ont été remplacés par des vagues d'immigration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des quartiers où, voilà, ce sont des gens issus de la même immigration. Vous, comment vous vivez cette stigmatisation quelque part? Est-ce que pour vous, c'est une stigmatisation d'abord?
Oui, le communautarisme, c'est un concept péjoratif. Surtout nous, les musulmans, on n'a pas cette notion. On a la notion d'avoir un esprit collectif, de travailler pour les autres, oui. Il y a une narration de notre prophète qui dit « n'a pas la croyance complète, celui qui n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même ». Alors que ce soit l'être humain, que ce soit musulman ou non musulman, il est un frère qu'il faut travailler avec, qu'il faut agir avec, qu'il faut s'entraider ensemble d'une façon réciproque et mutuelle avec une confiance. Et on vit dans une société qui touche tout le monde. Le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est primordial, qui est indispensable. Le communautarisme reste une notion sociopolitique plutôt autre chose.
Je vous pose la question franchement, est-ce que la France a un problème avec l'islam ?
C'est pas la France qui a un problème avec l'islam, c'est quelques-uns qui prétendent agir au nom d'une, je sais pas, une référence qui accuse l'islam par rapport à leur référence, surtout. Je parle ici de quelques personnalités, surtout intellectuelles, si j'ose dire. Je vais pas citer des noms. Mais des gens qui prétendent agir au nom d'une référence particulière pour viser les musulmans, alors qu'ils n'ont pas cette connaissance. Il faut communiquer ensemble, il faut parler ensemble, il faut avoir cette ouverture à tout le monde pour arriver à convaincre les autres surtout, et enlever cette crainte, et vivre ensemble dans une société, combien on a besoin de ça.
Antoine Roquin, on parle souvent de racisme anti-blanc. Là où vous vivez, vous en avez été victime ou pas?
Non.
C'est simple et c'est clair.
Ouais, j'essaie trouver un exemple, mais j'en trouve pas.
En tout cas, vous êtes la preuve tous les deux que deux personnes de cultures différentes peuvent se parler et parfois même s'aimer. La preuve, hier, en me promenant dans le tout nouveau parc de la Cité du Terraillon, j'ai croisé Jamila et Cédric. Ils étaient avec leur fils Aurel, 11 mois.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Il est sage, votre bébé, là.
Il est fatigué, c'est la fin de la journée, là.
Il a quel âge ?
11 mois et demi.
Vous venez ici combien de fois par semaine ?
Plusieurs fois par semaine. C'est très, très agréable. Ils ont aménagé avec des appareils, entre guillemets, de sport, plus des aires de jeu. Donc, un avec un très grand toboggan qui, honnêtement, si ça pouvait être pour les adultes, moi, j'en aurais profité. C'est dommage, parce que là, je pense pas que j'y rentre, en fait.
C'est une espèce de tube immense, là, qui monte assez haut, d'ailleurs, hein, un tube en acier.
Je sais pas comment ils ont décidé de mettre ça en place. La hauteur, elle est vraiment impressionnante, et les enfants, ça les arrête pas du tout. Et ce qui est très agréable aussi, c'est toute la partie verdure. Ils ont vraiment opté pour ça. Les fleurs, c'est très agréable aussi.
Je pense qu'ils ont voulu planter quelque chose qui ressemble de loin à une jachère fleurie. Les essences des arbres aussi sont pas mal. Je crois qu'il y a du merisier, ils ont gardé des cèdres. Donc, non, c'est sympa. Et en plus, on voit justement, il y a une petite faune d'insectes. Des bourdons, des insectes mielifères. Et c'est vraiment sympa.
Je pense que ça permet vraiment de se détendre. Les enfants de retrouver un petit peu le côté nature qu'ils perdent, hein, quand ils sont dans des villes aussi urbaines, ça manque parce qu'on les voit, ils s'amusent énormément les enfants. Vous les entendez, ils crient, ils courent, ils sautent de partout, et un enfant ça a besoin de ça. Un adulte un peu plus de tranquillité, mais aussi d'avoir une portée de vue où il n'y a pas de bâtiment en face.
Un parc comme ça dans un quartier populaire, ça n'existait pas ici. Ça crée un poumon, un petit poumon de verdure pour les jeunes en fait.
Trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Avec Natural Blues, on est toujours en direct de Bron dans la métropole lyonnaise. On a quitté le marché quelques instants pour se retrouver dans la maison du Terraillon. C'est à la fois une médiathèque et un lieu d'accompagnement pour la recherche d'emploi. Mais si on est là, c'est pour parler culture avec vous, Hassen Merzouki. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rappeur, compositeur et vous avez travaillé pendant 6 mois sur l'écriture de deux chansons avec 3 jeunes du quartier. Nawel, bonjour.
Bonjour.
Manel et Wail. Bonjour, merci d'être venu. Racontez-moi, les enfants et Hassen, c'était quoi le projet au départ? Comment c'est né?
Moi je pense que je vais plutôt donner la parole aux jeunes. Comment il est né ce projet? Vous sauriez nous dire?
Ouais. Bon, en fait, de base, moi j'écrivais avant la chanson déjà.
Et, tu écrivais quoi?
J'écrivais un peu des freestyles, des petites chansons pop, trucs comme ça. Et je suis venue au centre social Gérard Philippe. J'avais vu Hassen et Saïd, ils m'ont proposé de s'inscrire à un projet rap. Et j'ai dit pourquoi pas, et j'ai essayé de le faire, et du coup ça m'a plu. Jusqu'à maintenant, on a fait 2 chansons, les clips, et on a envoyé du lourd, quoi.
Et c'est du lourd, on l'entendra tout à l'heure. Et toi, Manel?
On était en sortie, et genre, il y avait déjà une chanson qui était sortie avec Wail. C'était La Paix, et j'avais bien aimé, donc après Saïd il m'a dit si je voulais faire et j'ai proposé que oui, vu que j'aimais bien leur chanson. Yes.
Et toi Wail?
Et ben moi au début j'avais fait une chanson La Paix avec Hassen. Après il y a eu Saïd qui m'a dit ouais Hassen il fait encore de musique. Je lui ai dit pourquoi pas et c'est pour ça.
Yes. T'as quel âge toi?
11.
T'es trop mignon.
Ah ouais, il a une énergie de fou.
Oh, vous pouvez dire ouf, hein.
De ouf.
Comment vous avez travaillé à scène avec les enfants? Comment vous les avez pris en charge?
Eh ben, en fait, moi, j'encadre des ateliers d'écriture depuis déjà plus de 15 ans, une vingtaine d'années même. Et en fait, l'idée, c'était de les emmener vers des choses dans un premier temps qui leur parlent. L'idée d'écrire, de s'exprimer. Donc, on a écrit ce premier titre qui s'appelle Passionné, qui revient sur ce qu'ils aimaient. Donc là, pour Nawel et Wail, c'était systématiquement le foot. Et puis pour Manel, elle nous a ramené sur le milieu de la danse. Elle a pratiqué pas mal de danse. Et puis, on a écrit ce premier titre sur une rythmique très actuelle, très ensoleillée. Et puis après derrière avec le centre social on s'est dit bon on va aller chercher des choses un peu plus profondes. Il y a eu la thématique de la discrimination qui a été mise en place et puis on a réalisé ce clip et écrit ce texte autour de du rouge et du vert
pour c'est un très beau clip d'ailleurs
pour symboliser un peu toutes ces discriminations sans cibler une mais vraiment d'un point de vue très général et on a écrit le texte et fait le clip de Étrange donc voilà ces deux clips là Étrange et Passionné qui fêtent leur un an d'ailleurs hein. On regardait ça tout à l'heure ça a été posté le 6 juillet l'année dernière et là on est le 7 juillet donc on souffle les bougies des clips.
Vous avez accepté de nous interpréter un extrait de Passionné. Yes. On vous laisse vous installer. Allez-y.
Ouais, on peut démarrer.
Alors là, allez-y, les enfants se mettent en place.
Okay.
Là, Hassan, vous lancez votre téléphone où il y a l'instru. C'est allez-y, parti. C'est à vous.
J'ai un rêve et je suis prête à le réaliser. Depuis toute petite, je ne fais qu'y penser. Cherche pas, on peut pas m'en empêcher. J'ai toujours le ballon collé au pied. Je me souviens de ses pleurs sur mon lit. Pour ma mère, le football, c'est pas pour les filles. À cause de ça, j'ai cru que c'était fini. Grâce au grand du quartier, elle a changé d'avis.
J'ai commencé à 3 ans à bouger sur la piste. Je me voyais déjà devenir une artiste. C'est que j'aime. C'est danser librement, sans avoir honte du regard des gens. Chaque journée, c'est l'occasion de danser. Travailler, répéter pour s'améliorer. Changer de style à chaque nouvelle choré. Inventer des mouvements et les synchroniser.
Moi, à 6 ans, je commençais au but en or. Dans les tournois, je vais être le plus fort. Attaquant droit, brosse de marquer. Passer, dribbler, surtout de marquer. Footballeur, c'est ma passion. Fabrice et Kader m'ont appris les petits ponts. Et je repense le son. Quand je mets mes crampons et frappe dans le ballon.
Grâce à toi, grâce à vous, je vais aller jusqu'au bout. Déterminé, un peu fou. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Passionné, passionné. La 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 la. Passionné, passionné. Moi je ne vais rien lâcher. Rien lâcher, rien lâcher. Rien lâcher, rien lâcher. Je vais rien lâcher. Non, rien lâcher.
Merci beaucoup les enfants, c'était super. Wail, tu parles de petit pont. C'est quoi le petit pont, c'est?
Prendre une balle, le mettre en dessous.
Ouais, je suis nul en foot moi. Vous écoutiez du rap avant de vous lancer dans cette aventure avec Hassan Merzouki?
Non.
T'écoutais quoi? Tu écoutais quoi?
Moi des autres chansons.
Du genre?
Jul.
Jul. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience, Manel?
Ça nous a apporté qu'on a du talent et qu'on a du talent et voilà, c'est tout.
T'as gagné en confiance, ça t'a donné confiance en toi.
Ouais.
C'est des choses que tu soupçonnais pas. Raconte-nous.
Oui, parce qu'au début je savais pas que je savais chanter, mais genre je savais pas que je savais chanter parce que.
Un talent caché.
Voilà, un truc comme ça.
Moi, ouais. Tout simplement, ça m'a. C'était vraiment une expérience formidable et franchement, travailler avec Hassan qui est un rappeur, déjà, c'est vraiment incroyable et on peut dire qu'on croit à nos rêves, quoi. Et voilà, on peut aller plus loin.
Mais toi, Nawel, est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu peux nous dire si c'est difficile de faire du rap quand on est une fille?
Non, du tout. Le rap, c'est pour tout le monde. C'est mixte.
Ouais, les garçons, ils sont d'accord avec ça?
Ouais, voilà. C'est comme si c'était du foot. Le foot... Il dit c'est pour les garçons, mais en vrai, regarde, il y a le foot féminin.
Ouais, on va en parler tout à l'heure, justement. Voilà. Hassan Merzouki, vous êtes donc rappeur, compositeur. Mm-hmm. Ce travail avec ces trois jeunes, ça va au-delà de l'aspect artistique?
Oui, c'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre avec des jeunes. C'est des jeunes qui sont formidables, qui nous montrent leur détermination, leur motivation. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que là aujourd'hui on voit un peu le travail fini, mais derrière il y a vraiment beaucoup d'heures de travail. Fallait les mobiliser en pleine période scolaire, le mercredi après-midi dans un planning qui est déjà très chargé, le vendredi en fin de journée.
C'est apprendre la discipline.
C'est aussi, il y a une certaine discipline derrière. Après pour avoir un résultat cette qualité là, et il y a un vrai investissement. Et c'est vrai qu'ils ont répondu présent à ça. Et comme je disais, c'est la rencontre humaine avec ces jeunes qui sont formidables. Wahil, qui malgré son jeune âge, et ben il a une énergie débordante. Parce que là, c'est vrai, ce qu'on voit pas, ce qu'on n'entend pas, c'est qu'on a fait des concerts. Ils sont montés sur scène. Ils ont défendu leurs textes et leurs paroles sur scène. Et là aussi, ils m'ont surpris. Voilà, ils sont débordants d'énergie. Et c'est une vraie fierté aujourd'hui de pouvoir aussi en parler à la radio. Aussi, c'est super.
C'est quoi vos rêves? Nawel.
Moi, devenir footballeuse. Je pense qu'on l'entend dans la chanson. Mais c'est vrai, ouais, devenir footballeuse.
Eh ben, on va te garder dans 3 minutes. Et toi, quel est ton rêve?
Moi, clairement, j'en ai pas. Avant, j'aimais bien danser, mais là, je me sens plus trop dans le mood de danser.
Tu sais pas ce que tu veux faire plus tard comme métier?
Non, pas encore.
Et toi, Wahil?
Bah, moi, j'aimerais bien être footballeur professionnel et entraîner des autres joueurs.
Hassan Merzouki, est-ce que les jeunes des quartiers s'autorisent moins de rêves que d'autres enfants? On peut avoir ce sentiment parfois. Qu'est-ce que vous en pensez?
Après, on peut se sentir dans cette position-là parce que on va avoir beaucoup d'étiquettes qui vont être collées, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va devoir porter tout au long de notre vie, notamment dans liées aux discriminations, comme on peut en parler. Donc forcément, on a cette sensation qu'on nous ouvre moins de portes, mais on a quand même pas mal d'exemples qui nous montrent que moi en tout cas, je porte ce type de message là. On doit croire en ses rêves, on doit s'autoriser à rêver, on doit s'autoriser à entreprendre des choses et faire des choses pour aller plus loin et concrétiser nos rêves. Et je pense qu'on a la chance en France quand même de pouvoir y accéder. Ça, voilà, il faut y croire et c'est important.
Je vous propose de me suivre, surtout toi, Nawel. On va retourner dehors pour parler de foot féminin. J'ai vu Nawel effectivement dans votre clip que tu joues hyper bien au foot. Là, on va rejoindre Tar Ounas et surtout Darine. Bonjour Darine.
Bonjour.
T'as quel âge toi?
11 ans.
Alors toi tu t'occupes quel poste? Tu fais du foot et t'es à quel poste?
Milieu de terrain.
Milieu de terrain? Il fait quoi le milieu de terrain?
Soit il récupère la balle ou soit il fait avancer les joueurs pour qu'ils aillent marquer.
Qu'est-ce qui te plaît dans le foot?
Tout. Enfin, j'aime bien jouer au ballon, marquer.
Et ça t'est venu comment, cette envie de jouer au football?
En voyant papa jouer, ça m'a donné envie, j'ai essayé et j'ai aimé.
Ah, ton papa est à côté de toi, c'est Chouki, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes un pro du ballon au point que vous suscitez des vocations chez votre fille.
Un pro, c'est un grand mot, mais c'est vrai que la petite, elle m'a vu jouer et puis voilà, ça lui a donné envie. Puis j'ai mon garçon qui joue également, donc voilà, on est une famille de foot, on va dire.
Et qu'est-ce que vous avez dit lorsque Darine, elle est venue vous voir en disant « Papa, j'ai envie de faire du foot ».
Ça m'a fait plaisir. Hein.
Tout de suite, vous avez accepté?
Ah oui, tout à fait, ouais.
Tar Ounas, vous êtes donc le président du SC Bronterayon Perle.
Exactement.
Quelle est la place du foot féminin dans votre club?
Alors là, on l'a développé pleinement ces 2 dernières années. Mais le foot féminin à Bron, il existe quand même depuis plus de 20 ans. À Bron, on a eu des équipes où ça n'a pas fonctionné, donc on a dû arrêter. Et là, on a quand même mis en place des choses pour justement accueillir les filles dans de bonnes conditions et pour progresser. Donc, comme on voyait Darine, là, qui est en jeune, et donc on commence par les jeunes. Et là, on a une équipe senior, une équipe U18, et une équipe U13 et une équipe U11.
Vous n'avez pas attendu l'effet Coupe du Monde après le quart de finale de l'équipe de France féminine l'année dernière. On a constaté qu'il y a eu une explosion des licences de footballeuses, plus 20%. On dépassait les 200 000 pratiquantes. Vous n'avez pas attendu cet effet-là.
C'est vrai qu'après la Coupe du Monde, on a eu cet effet Coupe du Monde des filles qui sont venues nous demander si on avait une équipe féminine, si on avait... Donc on a répondu que non, parce qu'on n'en avait pas. Et puis après, on a développé ça avec un gars qui s'appelle Laurent, qui vient de l'AS... Enfin, du Sporting Club de Genasse. Et avec lui, on a pu développer, donc il y a 2 ans, donc toutes les filles. Et là, c'est en marche.
Darine, est-ce que c'est facile de faire du foot lorsque on est une fille? Est-ce qu'il y a des garçons à l'école, quand ils savent que tu fais du foot, qui te font des remarques?
Bah non, mais au début, quand tu joues avec eux, ils te font pas la passe en croyant que t'es nul. Et après, quand ils te font la passe et que tu vois, t'as un petit niveau, et après, ils te font des passes et voilà.
Ouais, et c'est eux qui deviennent nuls.
Non, pas ça.
Tarounas, vous avez pu constater que c'est plus difficile pour une fille de s'imposer sur un terrain de foot? Parce que c'est quand même un sport masculin, enfin, même si les choses évoluent.
Oui, mais nous, on est ouvert à tout. Donc, nous, ça nous a pas rendu la tâche difficile pour nous, en fait. Hein. Ça, on y est allé, et puis maintenant, on a des filles. Ça sont U11, U13 et senior féminine. Ça marche bien. Surtout à Terraillon, enfin, qui était un quartier quand même assez, on va dire, masculin dans le sport foot. Mais là, ça va, ça fonctionne bien.
Il n'y a pas eu de problème pour enfin, tout le monde a accepté. Alors, dans le quartier.
Jusqu'à présent, aucun problème.
Quelle est la place, le rôle d'un club de foot dans un quartier populaire? Au-delà du football féminin, quel est son rôle?
Alors,
est-ce qu'il y a un rôle social, par exemple?
Bien sûr. Surtout à Terraillon, au club de Terraillon, bien sûr qu'il y a un gros effet social.
Pourquoi surtout au quartier du Terraillon?
Ben, on a vu quand même que les revenus de ceux qui habitent ici sont minimes. C'est pour ça que la licence chez nous, elle est pas tellement chère. Elle est pas aussi chère que ça. On est à 160€ pour l'année.
C'est moins cher qu'ailleurs?
Ben oui, je crois qu'on est un des clubs les moins chers de toute la France, je crois.
D'accord. Darine, ton idole, c'est Karim Benzema, l'enfant du quartier, il a commencé ici, ou Eugénie Le Sommer. Tu connais pas Eugénie Le Sommer? Tu connais Karim Benzema?
Oui.
D'accord, bon, donc c'est plutôt lui. Ton rêve, est-ce que c'est de jouer un jour à l'Olympique Lyonnais, grand club de foot? Pourquoi?
Bah, je sais pas, enfin, ça me donne envie quand je regarde les matchs à la télé et les autres filles jouer à la télé.
En tout cas, Darine, on souhaite que tu deviennes une grande championne de foot. Tu aimes la musique aussi ou pas? T'écoutes de la musique?
Oui, un petit peu.
Eh ben, écoute cette pépite de la playlist de France Inter. Personnellement, je me la passe en boucle. C'est un proche de l'homme pâle, Yacine Stein, avec Marrakech Butter.
Je croyais que c'était jusqu'à la mort. Je voulais qu'on s'aime pas comme mes parents. Peine serrée, partie pour pas grand chose. Ça donne de l'inspi, il paraît. Pas grand chose pour qu'on mérite. Si je pars en plus, faut qu'on m'arrête. Mais ce sera sans elle, pas sans barrette. On a passé l'épreuve, on a fait le test. J'ai vu l'amour, j'ai pas vu le temps passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste. Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. Je suis revenu vite de mon aller simple. Je pensais pas que ce serait dur de s'en passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste.
Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. C'est pas la maison, c'est pas quitter. On s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les nez qui coulent. On s'est pas quitté, mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais un coup, j'aurais jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. J'aurais jamais classique. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent.
Je suis aussi dur qu'une femme, j'ai la douceur d'un allié en temps de guerre. Les lesbiennes m'adorent, je sais pas comment je dois le prendre, je sais comment faire du cash, je sais surtout comment tout perdre. Ils se prennent pour tout pas qu'ils sont du père. Comme les mecs de la BAC sont des pères de putes. Jamais eu de tech, j'ai rien du père. Descendant de maman, j'tiens rien du père. J'ai mal à la dent, j'ai mal au cœur. Tyler a dit, pour toucher les fonds, tu dois tout prendre. Pour toucher le fond, tu dois tout perdre. J'ai mis de la menthe dans la théière. J'ai mis maman feu théière. J'ai mis la drogue dans le Tupperware. Yeux rouges, Marrakech Butter. Je voulais planter ma reine comme John. D'autres voulaient planter Reagan. Je voulais planter ma graine en elle. Elle m'a planté légalement. J'rêve que dommages collatéraux. Je crois que je vais faire trop de dégâts. Y'a plus que des Uber dans la ville. Je fais plus peur comme une Mégane blanche.
Je fais pas la bise, on s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les nez qui coulent. On s'est pas quitté.
quitté, mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais un coup, j'aurais jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais un coup, j'aurais jamais classico.
Vous êtes toujours sur France Inter en direct de Bron. Alors là, on vient d'entrer dans la pharmacie du Terraillon qui fait face au marché. Là, on longe tous les médicaments pour aller rejoindre Coralie Gallet. Coralie Gallet, bonjour. Vous êtes
oui, bonjour.
Vous êtes la propriétaire de la pharmacie.
C'est
vous
ça.
Vous êtes arrivée ici il y a 2 ans. Vous n'aviez même pas 30 ans. Être pharmacienne ici, c'est particulier ou c'est comme ailleurs?
Comme ailleurs, je dirais, parce que bah, nous, on est arrivé il y a 2 ans et demi, parce que du coup, je suis associée au sein de la pharmacie. Et donc, dans ce quartier du Terraillon, on a été très, très bien accueillis, de toute façon, dès le début. Voilà, il y a un respect mutuel avec nos patients. En plus, on a cette chance et cette proximité-là de... Voilà, c'est un peu un petit village dans la ville, donc les gens nous connaissent, on les connaît, on arrive à vraiment faire notre rôle de professionnel de santé, donc à les aiguiller aussi en cas de besoin, parce qu'en plus, bah, au niveau des médecins, c'est un petit peu compliqué partout. D'ailleurs, si un médecin cherche à s'installer, il y a de la place à Terraillon.
Oui, c'est un peu le désert médical ici.
Oui, tout à fait. Près de Surbron, dans l'ensemble, il y a à peu près 20-25 médecins sur Bron, il en faudrait 40 en médecins généralistes. Donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que oui, il y a les urgences, mais le problème c'est qu'après, bon, les gens vont vite aux urgences et après ça encombre les urgences avec toutes les problématiques qu'on connaît. Donc voilà. Donc c'est sûr que qu'ici on a en tout cas notre rôle de professionnel de santé à jouer, et que je vous dis, avec les gens tout se passe bien, avec nos patients, voilà, on a une proximité et c'est vraiment très agréable parce qu'on a une confiance mutuelle et ça, nous on est très très contents de s'être installés ici et si c'était à refaire, on le referait sans problème.
Et vous arrivez à tisser des liens d'amitié, les gens, comment ça se passe?
Amitié, je sais pas, parce qu'on est quand même sur quelque chose de professionnel. Après, c'est sûr que du coup, voilà, on connaît les gens, on connaît leur pathologie, on les accompagne aussi au quotidien. Et du coup, en tout cas, voilà, ça permet de, surtout, voilà, de comprendre au mieux leur pathologie, de comprendre aussi au mieux comment l'intégrer aussi dans leur vie, parce que c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, de les aider, de les conseiller au mieux quand ils ont également d'autres problèmes à côté, quoi. Après, c'est sûr qu'on a un rôle, voilà, on leur aide pour d'autres choses autres que la pharmacie. On a un vrai lien relationnel avec eux. Voilà. Amitié, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, un vrai lien de proximité. En tout cas, ça, c'est certain.
Et ça se ressent au moment des fêtes.
Oui, après, voilà, c'est vrai que les gens sont quand même très reconnaissants aussi vers nous. Des fois, il leur arrive de nous rapporter des gâteaux et des choses comme ça. Donc ça, c'est très, très agréable également. Comme dans beaucoup de pharmacies, je pense. Honnêtement, quand on est une pharmacie de proximité, derrière, il y a une reconnaissance et les gens sont... Je vous dis, il y a un respect mutuel et c'est vraiment très agréable de travailler ici.
Ils vous apportent des cadeaux?
Cadeaux, non, mais ça nous est arrivé une fois, remarque. Si je dis une bêtise, qu'une patiente qui revenait de vacances, qui nous rapportait des cadeaux, ça nous est arrivé.
Des pâtisseries, je crois, ils partagent.
Des pâtisseries aussi, également, oui, quand il y a l'Aïd, voilà, également. Après, pas que, quoi. C'est vrai que, voilà, en tout cas, les gens sont généreux et je vous dis, tout se passe pour le mieux.
Bah, je vous laisse travailler parce que là, il y a du monde. Merci beaucoup. Là, c'est l'heure de l'apéro. On va retrouver une institution ici. C'est le commerçant, le doyen des commerçants. Il s'appelle Joël Clair. C'est le boulanger. Bonjour, Joël.
Bonjour.
Alors là, on va se diriger vers votre boulangerie. Vous êtes arrivé ici enfant?
Tout à fait.
Vous aviez quel âge?
J'avais 11 ans quand mes parents se sont installés au tout début du quartier. Ils ont pris la boulangerie. Mmh. Et depuis...
On est salué par un automobiliste. Sympa.
Ah oui, ça, c'est le chef pâtissier qui parle.
Ah d'accord. C'est votre collègue.
Et depuis je suis là, j'ai pas quitté le quartier. Alors ça a été une... Mes parents sont partis en 82 et avec mon frère, on a repris l'affaire.
Voilà. C'était il y a presque 40 ans, 38 ans.
Tout à fait.
Et comment ça se passe?
Bah, ça se passe pas mal, parce que bon, on a un peu d'antériorité.
Oui, comment on a... venez, parce qu'il y a du monde qui nous regarde. C'est pour ça, ça peut être troublant, je comprends.
Comme on est un petit peu des piliers du quartier, on arrive à tisser quand même depuis le temps beaucoup de liens avec tous ces gens, tous les gens du quartier.
Alors là, on vient d'arriver là sur les tables que vous nous avez installées. Et qu'est-ce qu'on découvre là? Qu'est-ce que vous nous faites découvrir?
Alors là, c'est une réalisation du chef qu'on vient voir passer qui, compte tenu qu'on n'avait pas de spécialité particulière dans, dans notre production et qu'on était à proximité de la place Jean Moulin, on s'est dit, tiens, on va faire le Jean Moulin. Le gâteau Jean Moulin, donc le Jean Moulin, parce qu'il représente Jean Moulin. Alors chaque fois on me dit, Claire, t'es encore là, mais tu fais de la résistance. Voilà, alors j'ai dit, bon, ben, ça tombe bien Jean Moulin, il faisait de la résistance aussi, donc
est-ce que vous,
on en a fait. Hein.
Est-ce que vous, le fait d'être ici depuis 55 ans, ça peut être une forme de résistance?
Bon, un petit peu, oui, c'est-à-dire on ne s'est jamais découragé. Il y a eu des... ce qui nous a sauvés un peu, ce qui nous a permis de patienter, c'est qu'on a eu un gros plan de Par-l'Enru, la ville de Bron, l'Enru et l'État, de remodeling du quartier.
C'est un plan de rénovation du quartier.
De rénovation du quartier, rénovation des logements et rénovation du centre commercial. Donc ça, c'était vraiment un challenge très important. Et on a patienté, ceux qui ont patienté ont eu raison. Parce que maintenant, on est vraiment dans un quartier qui est agréable. Ça a tout été fait pour qu'il y ait une bonne fluidité. C'est... Moi, je trouve qu'on a retrouvé une bonne santé commerciale. Voilà.
Tout le monde est là. Antoine Requin, vous nous avez rejoint. Chouki, Darine, venez goûter, venez goûter. Tard, voilà. Venez goûter les pâtisseries Jean Moulin de Joël Clerc. Vous allez nous en dire des nouvelles. Est-ce que... Allez-y, allez-y. Ne soyez pas timide. Vous n'avez jamais eu de problème ici, dans votre boutique?
Oh, on a eu des problèmes, si, si.
Quel type de problème?
Bon, la dernière édition, le dernier problème qu'on a eu, c'était un vol à main armée.
Ah oui?
En 2001 ou 2002.
Ah, c'était il y a 19 ans.
Voilà, c'était un dimanche à midi.
Ouais, et c'était une vraie arme?
C'est une arme factice, mais qui en avait tout l'air. Voilà.
Et comment ça s'est passé, alors?
C'était sur le coup des midi. Je sais pas, ils étaient 4-5 même. Des ados de 15-16 ans.
Et je crois que ma femme
qui connaissait bien les guns du coin, il y en a un qui tenait la porte et qui avait une cagoule un peu trop ouverte. Comme il avait des yeux magnifiques en amande, c'était le seul du quartier, elle dit, c'est toi. Et finalement, on a réussi à attraper tout le monde. Quoi,
en voilà. Tout cas, ça vous a pas découragé?
Ah ben non, il en faut plus que ça.
Est-ce que c'est bon la pâtisserie Jean Moulin de Joël Clerc?
Excellent, excellent. Excellent.
Mais tout à l'heure, au début de l'émission, parce que j'écoutais dans ma boulangerie le début de l'émission, et vous aviez fait quand même une erreur en disant dans le quartier, on ne voit pas beaucoup de blancs. Alors qu'il est en compagnie du plus beau spécimen de meule blanc du quartier.
C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Joël Clerc. Cette émission était réalisée par Violaine Ballet. Marion Philippe et Thomas Lehété m'ont aidé à la préparer. À la technique, Olivia Branger, Jean-André Giannichini, Pascal Bresse, Guillaume Rialan et Clément Berman. Merci Bron, merci Joël Clerc pour votre accueil. Demain, vous retrouvez l'ami Aurélie Sfez en direct de Douarnenez en Bretagne. Passez tous une bonne journée. Encore merci à tous.